Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, on se parle avec Gilles, figurez-vous, avant que l'émission commence, on se parle à distance. Bonjour Gilles Gansman, vous allez bien ?
Bonjour Madame Expert, ben, très bien, écoutez.
Ça
vous surprend que je vous appelle Madame Expert, c'est votre nom ?
Absolument. Qu'est-ce que vous me perturbez ? On va avoir tout à l'heure, le formidable Jacques Beaumont qui nous a tant diverti pendant des années dans La Famille Formidable. Ce soir, c'est un rôle assez différent dans lequel vous allez le retrouver sur France 2. C'est une fiction, un thriller, Vivre sans eux. On va en parler avec lui. Il va nous raconter également où il est confiné. Et puis à 10h30, on aura évidemment une entreprise qui participe à la solidarité, qui fabrique des gels. C'est assez original, sur un bateau-usine. Vous allez voir. On aura également un médecin de la pitié salpêtrière et puis également le président de la SPA. Allez, on commence tout de suite avec vos appels, les audiences d'hier. Toujours beaucoup de monde devant la télévision. Rémi Pernelet vous l'a dit, vous savez que vous retrouvez les audiences quasiment instantanément à 9h15, 9h20 dans la matinale de Patrick.
C'est 35 maintenant en ce moment.
Ah bon.
Bah oui, c'est 30-35.
De Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Je vois que vous l'écoutez,
Valérie. Je travaille un petit peu avant, donc je n'ai pas toujours la radio allumée. 7 500 000 téléspectateurs, 26% de part d'audience pour TF1, 6 655 000 pour France 2. Et si on ajoute le 19-20, ça fait près de 22 millions de personnes qui ont suivi les JT du soir hier, évidemment, sans compter les chaînes d'infos. Alors, on a en ligne avec nous Marilyn qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Marilyn. Marilyn, vous êtes là ?
Oui, je suis là, oui.
Bonjour Marilyn. Bon,
qu'avez-vous regardé hier ?
J'ai regardé les Bracelets Rouges.
Ah, d'accord. Vous suivez la série depuis le début ?
Depuis le début.
Ouais. Et vous êtes toujours fan ?
Toujours.
Toujours.
Toujours. Ouais. Et je regrette qu'il n'y ait eu qu'un épisode. D'habitude, il y a deux épisodes. Mais je crois qu'ils font, prolonger, justement, dû au confinement.
Ils font durer le plaisir.
Ah ouais, le plaisir, mais aussi, bon, voilà. C'est un
film
très attachant.
Oui, ils sont très attachants, effectivement, et ça a plutôt très bien marché hier. TF1 est arrivé en première position avec 5 500 14 000 téléspectateurs, près de 20% de part d'audience, mais c'est tout de même 150 000 de moins que la semaine dernière. Tout va bien pour vous, Marilyn, ou est-ce que vous êtes confinée ?
Tout va bien, je suis confinée à Plaisance. À Plaisance,
c'est où ?
Je suis à côté de Toulouse.
D'accord. Bon,
c'est
et vous faites attention.
Info, Valérie.
Oui,
Gilles. Alors, TF1 a annoncé qu'il y aura une quatrième saison des Bracelets Rouges, mais ils vont changer tous les enfants. Tout le casting va être changé pour faire une nouvelle saison avec des nouvelles histoires et des nouveaux héros.
Ah, vous le saviez, Marilyn ?
Non, je ne savais pas, mais je suis contente.
Eh ben voilà, c'est une bonne nouvelle.
Mais voilà. Bon, je félicite vraiment ces acteurs-là, ces jeunes qui jouent.
C'est vrai.
C'est proche de la réalité malheureusement.
Non, c'est très bien joué, c'est très bien. Les histoires sont vraiment bien faites. C'est pas larmoyant. C'est vraiment une très bonne fiction. Merci Marilyn de nous avoir appelé. On a Chantal en ligne avec nous. Oui,
merci.
Chantal.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, vous allez bien, Chantal ?
Oui, je vais bien. Oui, ça va.
Bon.
Ça va.
Bon. Vous avez regardé France 2, hier ?
Moi, j'ai regardé France 2, j'ai regardé le journal. Je suis très branchée sur le journal, là, sur France 2.
Oui.
Voilà.
Vous ne trouvez pas ça trop anxiogène ? Vous coupez un peu les chaînes d'infos dans la journée ? Vous ne regardez que le journal pour vous informer ?
Écoutez, en ce moment, oui, parce que je fais du télétravail. Et puis, j'avoue que oui, j'aime bien suivre un petit peu ce qui se passe. Donc, disons que j'aime bien regarder M6 également dans les infos. Et après, je me repenche sur France 2. Voilà, pour voir un peu la différence. D'autant plus qu'hier, on parlait de l'Occitanie. Donc, ça m'avait d'autant plus intéressée. Je l'ai même remise en replay pour que les enfants le regardent.
Alors, c'est vrai que l'Occitanie est un peu moins touchée, si je dis pas de bêtises. Tout ce qui est sud-ouest, on voit sur les cartes qu'il y a moins de cas. Mais bon, il faut quand même être vigilant. Et puis vous avez regardé autre chose, non, après le journal ? Vous avez éteint la télé ?
Non, en fait, on regarde un petit peu, après on en discute énormément entre nous, donc voilà. Mais ou sinon, ce que j'aime bien également sur France 2, c'est qu'ils ont des films, des anciens films, et ça, j'avoue que c'est très distrayant.
Et les enfants aiment bien ou pas? Parce que c'est des films un peu anciens, comme,
moi,
je sais pas, l'inspecteur
enfants,
La Bavure.
Alors, quand je parle de mes enfants, c'est des adultes, hein, quand même.
Ah, d'accord. Voilà, oui, ils sont grands.
On a un peu cette chance d'avoir été confinés tous ensemble. Donc,
oui, ça, c'est bien. Et qu'ils soient grands, parce que je voyais dans le journal ce matin que les consultations de psy par téléphone ou en visio-consultation explosent, parce que les parents qui ont des petits-enfants ont beaucoup de mal à les gérer. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Chantal. Signaler la... Oui.
Oui, je dis, et merci beaucoup pour votre émission.
Ben, merci à vous de nous écouter. On est content que vous nous soyez fidèles. À signaler que les films d'après-midi marchent très très bien. Et Rémi Pernolet me signale que La Princesse de Montpensier sur France 2 a fait 1 850 000 téléspectateurs. Alors, c'est 900 000 de moins qu'Inspecteur La Bavure, mais c'est vrai que...
C'était du Tavernier, donc c'est autre chose.
C'était un peu différent. Tavernier. Absolument. Oui. Vous vouliez dire quelque chose, Gilles ?
Oui, je voulais dire aussi que dans les audiences de Rémi, vous savez que le carton, c'est l'émission culinaire sur M6.
Bah oui, j'allais le dire.
Je sais que vous alliez le dire. Et donc, je voulais juste vous donner une information. C'est que ce soir, ça sera Stéphane Bern, l'invité qui va cuisiner en duplex. Je pense que ça va être quelque chose de voir Stéphane Bern cuisiner.
En cuisine, oui, cette émission, vous le disiez, qui cartonne, et hier soir, 2 231 000 téléspectateurs sur M6. Mais c'est vraiment très bien fait, je le dis et je le redis. On aimerait bien avoir Cyril Lignac, d'ailleurs, s'il nous entend, pour lui dire tout le bien qu'on pense de cette émission, qui est sympathique, originale, avec des recettes tout à fait accessibles. Donc, ça a plutôt très bien marché. Le gendarme se marie sur M6, 3 458 000 téléspectateurs. Ce matin, à lire dans Le Parisien, une interview du fils de Louis de Funès, qui est très heureux du succès de son père. C'est vrai qu'il apporte beaucoup de bonheur. Et puis sur France 3, il y avait un documentaire, L'épopée des gueules noires, 1 379 000 téléspectateurs. Voilà. On passe au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Évidemment, alors, Valérie, à presque un mois de confinement, les familles, les maris commencent à manquer aux infirmières. Hier, l'une d'elles a témoigné.
Les maris, je ne comprends pas ce que vous avez dit.
Les maris, leur mari, leur famille commence à manquer aux
familles.
Infirmières.
Oui, d'accord.
Voilà. L-E-U-E-R-S.
Non, mais je n'avais pas compris leur mari. Enfin, c'est les familles qui manquent. Il n'y a pas que les maris. Les familles. D'accord,
pourquoi,
mais je n'ai pas compris.
J'y
d'accord.
arrive. Et l'une d'accord. d'elles hier a témoigné dans C'est à vous sur le manque de son fils qu'elle n'a pas vu, sauf à travers un écran.
Donc là, ça commence à faire long pour lui. Donc je commence à lui expliquer que j'attends que ça se calme un petit peu, que lorsqu'il pourra prendre le train, l'avion... pour revenir sur Paris, et ben je lui ferai signe, mais là c'est vrai que c'est un petit peu, ça commence à devenir dur. Là. Il dit qu'il voit pas sa maman, il aimerait bien voir sa maman. Malheureusement, j'appelle tous les jours, j'essaie de combler comme je peux, mais c'est vrai que la présence physique, les appels vidéo, ça remplace pas une maman, c'est sûr.
Ouais. Alors, c'est pas parce qu'on est sorti de réanimation, Valérie, que tout va bien. Hier, le docteur Jean-Daniel Chiche, chef adjoint de la réanimation à Cochin, a expliqué que derrière ces malades, il y avait un long parcours avec des séquelles.
Quand vous passez 3 semaines en réanimation, on estime que le stress post-traumatique de ces patients, c'est 5 fois le stress post-traumatique de soldats de l'ONU qui reviennent de mission. On est en train de parler de patients pour lesquels on sait, il y a des études qui l'ont montré, qu'à peine 50% de ces patients ont repris le travail dans les 6 mois qui suivent. L'hospitalisation en réanimation, c'est le meilleur régime qui soit. Hein. Vous perdez 20% de votre poids corporel en une dizaine de jours. Malheureusement, ce n'est pas la graisse, c'est les muscles. Il va falloir les fabriquer, ces muscles.
Hier, Sylvie Briand, directrice à la préparation mondiale des maladies infectieuses à l'OMS, a expliqué quelque chose d'assez étonnant sur BFM. Finalement, le pangolin ne serait pas l'animal intermédiaire. Et vous allez voir que ce n'est pas rassurant ce que raconte Sylvie Briand de l'OMS.
Vous savez, c'est un virus qui est d'origine animale. Et on sait que c'est les chauves-souris qui, en fait, sont porteuses, sont le réservoir de ce virus. Mais on cherchait l'animal intermédiaire et donc maintenant on a trouvé le virus dans d'autres animaux et notamment des chats et des furets. Donc les études sont encore en cours, mais on avance un peu sur cette piste-là.
Je pense qu'on va pas, on va en apprendre et encore en apprendre sur ce virus. Hier soir, Valérie, Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe, a parlé d'une crainte. Est-ce que tout va redevenir comme avant? C'est une vraie question.
Ce qu'il faut éviter, c'est qu'après la crise, on considère que nous avons vécu une parenthèse, et que après la crise, on soit victime d'amnésie et que tout reparte comme avant. Ça, ce n'est pas possible.
Alors hier, il y a une sorte de folie qui s'est emparée de la télé, des réseaux sociaux. On s'est tous envoyé des SMS sur une potentielle carte de déconfinement avec des dates zone par zone qui a été relayée par Touche pas à mon poste, puis démentie par Cyril Hanouna. En fait, c'est BFM qui a expliqué que, évidemment, cette carte est un fake. Si vous avez reçu cette carte, c'est évidemment un fake. Écoutez.
On m'a envoyé une carte de France avec des dates de déconfinement. Est-elle authentique?
On a contacté la Direction Générale de la Santé ainsi que le service de presse de Matignon et tous deux sont formels. Malgré cette carte qui est plutôt bien faite, elle est complètement fausse.
Alors, en même temps, Cyril Hanouna a dit qu'il tenait ses informations de l'Élysée. Il avait son portable à la main. C'est vrai que ça a provoqué pas mal de réactions, mais cette information de BFM, elle était déjà sortie avant. Hein, Gilles, c'est pas un démenti à ce qu'a dit Cyril Hanouna. C'est-à-dire que cette carte était sortie avant et lui a donné des dates.
Lui s'est inspiré de cette carte, je pense, pour faire. Pour raconter ce qu'il a raconté. D'ailleurs, cet extrait a disparu de tous les réseaux sociaux et des replays.
Alors que Canal Plus a quand même fait, il faut le dire hier, un tweet en disant Cyril Hanouna annonce, donne les dates du déconfinement, ce qui est quand même relativement irresponsable, plus que relativement irresponsable même de la part de Canal Plus d'avoir tweeté ça.
Des gens. Alors, je vais vous donner une adresse, Valérie, parce que s'il y en a qui se connaissent en confinement, ce sont bien les sœurs dans les monastères. C'est une initiative de l'abbaye de Bouleaux qui a mis en ligne. Les sœurs viennent témoigner de comment faire son confinement et voilà ce que ça donne.
Entrée au monastère, on réalise qu'on va devoir vivre toute notre vie au même endroit alors qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on en soit capable. Du coup, on a une petite expérience de ce que c'est que le confinement. On voudrait vous partager un certain nombre de réflexions qui nous sont apparues et qui peut-être peuvent vous intéresser en ce moment. Quand on vit toute sa vie au même endroit, qu'on a toutes ses activités dans le même lieu, comme c'est le cas pour nous au monastère, un point qui est très très important, c'est de se fixer un horaire pour pouvoir être dans une logique d'alternance entre ce qui va être du travail manuel, du travail intellectuel, des moments de solitude.
Alors je vous mettrai sur le Facebook, évidemment, l'adresse des conseils de cette abbaye. Un dernier son, Valérie, allez, on va sourire pour terminer ce zapping. Vous savez que trouver des masques, c'est mission impossible. Les petits malins de Cruster qui font des détournements sur Instagram ont détourné une séquence du film Mission Impossible. Possible avec un avion sur le tarmac. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Ils ont un peu modifié le dialogue et l'ont adapté, vous savez, au fameux braquage des masques par les Américains. Vous allez voir, c'est très drôle.
Ces masques sont pour la France.
Ah non, je ne crois pas. Car nous allons vous les racheter. J'ai une offre très intéressante.
La France nous a offert notre poids en saucisses de mortaux. N'importe que les Big Deal et le dernier album de Black M.
La vache. Oh, les enfoirés. Et que dites-vous de deux places VIP pour voir Maria Carré à Vegas? Et le petit gros, on peut l'emmener une journée à quoi se flasher. Il aura le droit à un ballon et à une gaufre.
Voilà, et je vous mettrai aussi l'adresse de la vidéo de la négociation sur le tarmac. La vidéo fait 3 minutes, c'est très très drôle.
Merci Gilles. On est en ligne avec Bernard Lecoq. Bonjour Bernard Lecoq, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne, tout à fait. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Ma foi, bien. J'ai cette chance d'aller bien pour l'instant. Donc voilà, écoutez, on confine.
Vous êtes confiné en région parisienne ou
à
Paris? Et vous faites attention, c'est pas trop long, pas trop contraignant?
Non, ça va. Moi, j'ai l'habitude de ne rien faire. Alors, ça va. Je m'occupe. Il y a pas ça. De ce point de vue-là, c'est assez simple, quoi. Maintenant, évidemment, c'est la situation globale collective qui m'inquiète. Mais voilà. Enfin, ce qui me concerne, je suis relativement à l'abri.
Vous n'aviez pas de tournage de prévu? Ça n'a pas bouleversé?
Ça a arrêté un tournage qui, j'espère, reprendra. C'était un tournage aux côtés de Cécile Bois, qui elle-même a été atteinte par le virus et qui s'en est bien sortie. Donc voilà, je suis bien heureux de ça. Mais c'est vrai que voilà, nos affaires cinématographiques et télévisuelles prendront le temps qu'il faut pour se remettre en place.
Absolument, tout est arrêté.
Ah, pardon.
Tout est arrêté, oui, je suppose. Oui. Allô.
Oui. Oui. Oui, 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 oui. Tout est arrêté. Gilles vous demandait si vous lisiez, ce que vous faisiez de vos journées.
Cuisiner.
Oui, je lis, oui, beaucoup. Je regarde des films aussi. Je fais un peu de sport à la maison. Enfin voilà. Et puis je m'occupe, voilà, un peu des choses en cuisine, de temps en temps. Et voilà. Pardon.
Oui. Bon, j'ai dit que et donc ce soir il faut vous regarder sur France 2.
Non, c'est
2,
pas
vivre...
ce soir, c'est demain.
C'est demain, demain soir, mercredi. Oui, demain. Oui, c'est demain soir à 21h. Pardon, c'est vrai, on perd un peu la notion des jours. On ne sait plus très bien quel jour on est. Effectivement, nous sommes mardi 7 avril pour ceux qui seraient perdus. Et donc demain soir 21h05 sur France 2, Vivre sans eux. Donc c'est un thriller qu'on pourrait qualifier de thriller intimiste. Alors évidemment, vous êtes très loin du rôle de Jacques Beaumont hein, dans Une famille formidable, mais c'est vrai que vous êtes un acteur, il faut le repréciser, extrêmement éclectique. Vous avez joué dans de très nombreuses fictions, dans de très nombreux films. Et racontez-nous un petit peu ce qu'on va voir demain alors, dans cette fiction.
Pour ne pas dévoiler, à vrai dire, voilà, il y a deux personnages, une jeune fille et un vieux type que j'interprète et qui vont... qui ont rendez-vous, elle avec son père, moi avec mon fils, et ces deux personnes ont disparu. Et alors, on va, elle et moi, enquêter pour savoir ce qui a pu se passer et de quelle manière on a pu peut-être les faire disparaître. Voilà, il y a quelque chose qui nous relie l'un et l'autre et qui va nous faire à la fois nous relier avec ces deux personnes qu'on avait aussi un peu négligées les années précédentes. Voilà,
enfin, c'est il y a de la culpabilité, quand je dis intimiste, c'est ça, c'est qu'il y a aussi tout l'aspect humain qui ressort dans votre personnage.
Oui, oui, il y avait un rejet très, très violent envers son fils quelques années auparavant. Ça amorçait une possibilité de réconciliation et à ce moment-là, c'est un jeune homme et le père de la jeune fille disparaissent. Donc on va partir à leur recherche.
Partir à leur recherche et enquêter.
C'est très prenant, Valérie. Hein, je peux vous dire que dès que vous regardez les 10 premières minutes, c'est compliqué de lâcher derrière.
Ah, tant mieux. Merci. Tant mieux. Il faut les spectateurs à regarder.
Non, non, mais c'est vrai. Il y a Esther Garel qui joue cette jeune femme qui est très émouvante.
Oh, oui, oui. Elle est tout à fait remarquable parce que elle est à la fois vraiment avec beaucoup d'énergie, une grande tension, et puis on sent une finesse, une intelligence très très profonde, puis en même temps une candeur que je trouve absolument délicieuse. Et je trouve que ce personnage, comme ça, elle a donné une densité à ce personnage qui m'a vraiment beaucoup plu, ce qui nous a permis de travailler tous les deux et de donner à nos deux caractères quelque chose, je crois, de touchant et de crédible. Voilà.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle? Justement, quand vous avez reçu le scénario.
La complexité de l'affaire, le fait que c'était bien écrit, quoi, comme vous disiez, voilà, on est pris par la main et on vous raconte une histoire de gens qui se trouvent, qui se transforment eux-mêmes, quoi, qui transforment leur point de vue sur les gens qui les entourent et sur eux-mêmes. Alors, ça me plaît, moi, cette affaire-là. Voilà.
Ça vous manque pas, Une famille formidable, de retrouver Annie Dupéret et tout le monde?
On ne se lâche pas avec Annie, avec les mots, mais tout ça, mais enfin, bien sûr que ça me manque. Et en même temps, ce qui me manque, et ce qui nous manque à tous le plus, c'était notre pote Joël Santoni, qui est décédé, qui en était le maître d'œuvre, qui en était le créateur. Enfin, il est... avec Pascal Brugnot, bien sûr, mais voilà, quand Joël est parti, voilà, j'ai pensé qu'il fallait
arrêter. Vous avez décidé d'arrêter. Voilà. Bah, TF1 pourrait le rediffuser, alors je pense que c'est déjà diffusé
ça viendra sûrement. Ouais.
Ben oui, parce qu'on va arriver à court de, fiction au bout d'un moment, non?
Oui, absolument. C'est très bien. Écoutez, voilà.
Ça veut dire que vous aurez plein de boulot.
Peut-être. J'espère que je serai encore utilisé. On verra.
Oh, si vous êtes vraiment un comédien rare, je dois le dire, vraiment, vous êtes quelqu'un d'humble et vraiment en plus avec une palette de jeux qui est assez formidable et on le verra. Donc demain soir, vraiment, je le dis très sincèrement, Vivre sans eux, c'est donc demain soir, c'est un scénario de Jean-Luc Esteb, réalisé par Jacques Maillot, et puis on va retrouver, il y a pas mal de... Grégory Montel, Lilou Fogli.
Absolument, oui. Lilou Fogli, tout à fait, qui sont deux personnages très intéressants. Je n'en dévoile pas plus, mais ils sont vraiment tout
n'en
à fait intéressants.
N'en pas plus. Voilà, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bernard
merci
Lecoq. Prenez
vous.
Soin
merci.
De vous. Et je rappelle, vous demain soir sur France 2, merci. Demain soir sur France 2, Vivre sans eux, c'est un thriller que vous ne lâcherez pas. Effectivement, Gilles a raison. Les deux premières minutes, les 10 premières minutes vous happent totalement. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec quelques petites infos avec Gilles.
Oh, je vais sauver l'humanité, Valérie.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio. Pardon. Je viens de prendre ma vitamine C. C'est pour ça, je vous dis tout. Quand on est à la maison, on sait tout et on voit tout. Gilles, quelques petites infos avant
oui,
de prendre
comme ça, vous allez
Régis
pouvoir
Revillaud.
Prendre votre voilà. vitamine. Alors moi, je vais vous donner une information qui va sauver l'humanité. Je vais vous donner une adresse qui existe, une calculatrice pour savoir combien va durer votre stock de papier toilette. C'est une application où vous rentrez vos données, parce que vous savez qu'évidemment, à cause du Covid-19, il y a un phénomène où les chariots sont remplis de rouleaux, des bagarres pour prendre le papier toilette. Eh bien, il y a un site dénommé The Poop Troll qui répond à cette question. L'idée, c'est un habitant de Londres qui l'a créé. L'idée, c'est évidemment de savoir à quel moment on va être en rupture de papier toilette. Alors, il y a plein de paramètres à rentrer. Hein. Le nombre de personnes dans votre foyer, le nombre
combien
de rouleaux que
vous
avez en stock, combien de fois. Et puis, eh bien, 12 jours avant votre manque de rouleaux, vous avez des alertes sur votre portable en disant attention, vous êtes en manque de rouleaux.
C'est intéressant. Je pense oui, vous avez, effectivement, vous nous aviez annoncé que vous alliez sauver
l'humanité.
C'est formidable.
J'ai tenu la promesse. Donc voilà, sur un site, ce site cartonne, hein, évidemment, vous vous doutez. Alors, évidemment, c'est
comment ça s'appelle? Redites le nom.
The Poop Tool, mais je mettrai l'adresse. Alors, pour ceux qui
oui,
veulent
alors,
les adresses
redites aux
que
gens, parce que Corinne, hier, disait que vous ne mettiez pas les adresses.
Alors, c'est très simple. Vous allez sur Facebook, vous allez sur le site de Sud Radio, normal, vous tapez Sud Radio sur le site de Facebook, et sur le site de Facebook, il y a des groupes. Et il y a un groupe qui s'appelle Solidarité Facebook. Vous cliquez sur ce groupe-là et là, vous avez toutes les informations. Voilà, il suffit d'aller sur le site de Sud Radio sur Facebook.
Encore
sur
une
Facebook.
Petite info?
Oui, j'ai deux petites infos encore. Mis en place par la chaîne France 24, alors c'est super, c'est un quid du Covid. Alors c'est un questionnaire en ligne destiné aux 6-18 ans, mais également, alors c'est par tranche, les 6-10 ans, les 11-14 ans et les 15-18 ans. C'est un questionnaire pour faire comprendre aux enfants et aux ados ce qu'est le Covid. Alors ils répondent à un questionnaire et le questionnaire les renvoie sur des reportages ou sur des vidéos explicatif du Covid. C'est extrêmement bien fait. Ça s'appelle le quid du Covid pour les enfants. Si vous avez du mal à expliquer à vos enfants ce qu'est le Covid-19, ils peuvent se connecter sur le site de France 24. Je mettrai également l'adresse. Et puis pour finir, depuis le 1er avril, mais on en reparlera, Valérie, vous savez que les films, le CNC a autorisé des films à être diffusés en VOD avant le délai. Avant, il y a un délai de 36 mois. C'est très très long pour que ça soit...
Pour qu'on puisse voir les films à la télévision.
Pour voir les films de cinéma. Donc tout ça a été raccourci par le CNC. Et le premier film est sorti le 1er avril, s'appelle « À 2h de Paris » de Virginie Verrier. Alors, c'est sur la plateforme Netflix. C'est avec Fred Testo, Thierry Frémont et Fanny Cottençon. C'est un film pour lequel Sud Radio est partenaire et vous pouvez le retrouver sur la plateforme de Netflix.
Et c'est gratuit
Netflix.
Enfin, gratuit à partir du moment où vous êtes abonné.
Vous avez Netflix,
non, il faut payer.
Exactement.
Oui, c'est ça. Oui, bah, oui, oui, mais c'est d'accord. Très
donc,
bien.
Voilà. Okay. Et puis, bien évidemment, comme on l'a dit hier, la plateforme Disney a été lancée et hier soir, à 2h du matin, elle a été lancée et le site était prêt. Injoignable, donc je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de connexions. Je vous donnerai les
beaucoup de connexions et beaucoup d'abonnements. Bon, merci donc, Gilles. Et Corinne nous dit que ça y est, elle a trouvé Corinne les infos, donc tant mieux.
Corinne.
Voilà, merci Gilles. Puis regardez la tasse que j'ai, c'est vous qui me l'aviez offerte.
Oui, c'est la reine
avec la reine d'Angleterre. Voilà, j'ai une collection de mugs. Je vous le montre à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook Live. Voilà, c'est hommage à Sa Majesté. Voilà,
j'espère qu'un jour on retournera à Londres quand même. Hein.
Absolument, merci Gilles. On est en ligne avec Régis Revillaud, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes armateur, président fondateur d'OFW Ships. C'est un navire qui est actuellement à quai dans le port de Sète. C'est normalement un navire usine, un navire de pêche. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus travailler, c'est cela ? Ou vous oui. avez, en tout cas, vous avez décidé d'adapter. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe pour vous et comment vous avez adapté votre travail, votre activité à la crise du Covid.
Oui, tout à fait. Alors, nous sommes des pêcheurs d'eau. Nous ne pêchons pas de poissons, nous pêchons de l'eau de mer. Donc, notre société...
Et pourquoi faire ? Racontez-nous un peu, c'est quoi ?
Alors, notre navire est un ancien carféri russe de 200 mètres de long sur 30 mètres de large, qu'on a aménagé en navire-usine. C'est une grande première mondiale. Nous sommes fiers de cette première mondiale. Nous allons donc en mer. Loin des côtes, dans les eaux internationales, nous pêchons de l'eau de mer à 300 mètres de profondeur par 2000 mètres de fond. Et cette eau de mer qui est exceptionnelle, on a fait un procédé, mis au point un procédé qui enlève le chlorure de sodium de l'eau de mer tout en gardant les 78 minéraux nécessaires à la vie. D'accord. Nous pêchons, nous enlevons le sel et nous embouteillons à bord du navire. Donc nous avons une capacité de 24 000 bouteilles à l'heure, c'est-à-dire 7 bouteilles à la seconde, c'est des bouteilles de 600 millilitres. Notre navire est donc basé à 7. Donc après plusieurs campagnes, parce que nous avons démarré il y a quelques mois, depuis plusieurs campagnes, notre navire, j'ai pris la décision, avant le président de la République, de confiner mon équipage à 7, comme tout le monde, pour éviter bien sûr la maladie à bord, ce qui aurait été terrible. Mon fils, qui est directeur de la flotte, également marine marchande, me dit, papa, c'est quand même bête, on a 3 millions de bouteilles à bord, on a de quoi faire de la solution hydroalcoolique, il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour notre pays. Alors, en fait, il faut savoir que ça, c'est dans l'ADN du marin. Vous savez, le marin un ADN, c'est toujours de venir au secours des âmes perdues en mer, etc. C'est notre ADN. Donc, rapidement, j'ai fait faire une analyse de risque par la méthode OMDEC. Nous avons déterminé certains risques et nous avons mis des mesures de maîtrise pour éviter tout incident. Mais il faut savoir qu'un car ferry est habilité, donc nous sommes certifiés pour transporter, manipuler des matériaux dangereux de classe 3, c'est-à-dire l'essence, l'éthanol, etc. Donc notre navire est équipé de 640 détecteurs d'incendie, d'arrosage automatique, d'extinction CO2. Notre personnel sont tous des officiers français et l'équipage sont tous marins-pompiers, expérimentés, diplômés et entraînés. Donc, si vous voulez...
Il n'y a pas de risque pour le coup,
Il n'y a pas de risque, puisque l'étude a été faite et on a mis en place les dispositions. Ensuite, les citernes d'éthanol, la citerne d'éthanol est à l'air libre sur le pont arrière. Les pompiers sont venus visiter notre navire. Enfin, tout s'est fait dans les règles.
Et donc, vous produisez donc du gel hydroalcoolique maintenant sur ce navire.
Absolument, ce n'est pas du gel, c'est de la solution hydroalcoolique. Il y a deux produits. Pour nous, c'était plus facile techniquement de faire de la solution. Donc nous sommes en capacité, donc nous produisons depuis plusieurs jours et nous sortons cette des palettes.
Envoyez à qui ? À qui elles sont destinées ? À qui est destinée la production ?
Alors, pour l'instant, nous sommes toujours en attente des commandes de l'État.
Non, pardon, j'ai ri, mais c'est pas drôle.
Donc il faut savoir que je me suis endetté auprès de mon banquier parce que bien sûr je suis une start-up, donc ma trésorerie est assez faible et donc il faut acheter les matières premières au cul du camion d'avance, donc si vous voulez j'ai demandé une ligne de crédit à mon banquier qui m'a ouvert cette ligne de crédit, moyennant finance.
Mais là, aujourd'hui, vos gels, vous ne sont pas distribués ?
Alors, ils sont distribués aux pharmaciens, hein, donc ouais. Actuellement, nous avons des groupements de pharmaciens qui nous achètent et nous livrons les grandes pharmacies, non? Nous aimerions.
Mais c'est vrai que l'État.
Ouais. Ah oui,
nous les aimerions. Hôpitaux, et c'est vrai que l'État pourrait vous passer commande, quoi, vu la production que vous êtes capable de faire.
Oui, puisque si nous obtenons des autorisations, ce qui serait que du bon sens, des autorisations de production, 24 000 bouteilles à l'heure, nous travaillons 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est ça la marine. Ouais. Et donc ça produit 4 millions de bouteilles par semaine.
Bah oui, et l'État vous répond pas.
Nous sommes en attente
d'une réponse, d'accord. D'accord.
Bah écoutez, j'espère. Nous sommes en attente d'une commande de l'État, parce que nous avons fait ça pour les pompiers, les policiers, les EHPAD, etc. Tous les gens qui sont en manque. On n'a pas fait ça pour le bon peuple. Hein, ils sont en manque. Une capacité comme la nôtre est unique. Hein. Nous sommes.
Écoutez, j'espère, Régis Revillaud, que vous serez entendu par l'État. On lance, donc on leur dit que vous êtes prêts, que vous avez, et puis bravo en tout cas pour ce que vous faites, et je pense que il y a beaucoup de gens qui cherchent encore des gels et des solutions hydroalcooliques, donc j'espère que vous serez entendu et que les commandes seront passées très vite par l'État. Merci beaucoup Régis Revillaud, donc armateur et président fondateur d'OFW Ships, et donc votre eau que vous produisez actuellement normalement s'appelle eau. Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On est en ligne avec le professeur Alain Combes. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Vous êtes chef du service réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes membre de l'ESICM, c'est la Société Savante Européenne de Réanimation. On voulait faire un point avec vous ce matin sur la situation dans votre hôpital en particulier.
Alors dans notre hôpital, la situation reste tendue, hein. Vous savez, donc maintenant il n'y aura probablement pas ce qu'on craignait, c'est-à-dire un pic, mais plutôt un plateau du nombre de cas d'admission dans les services de réanimation. Et on voit bien ce plateau à la date d'aujourd'hui. Le problème, c'est que les malades que nous admettons dans nos services ont une durée de séjour moyenne qui probablement sera plus près de 15 jours que de 10 jours. Et on a encore un afflux de patients tous les jours pour lesquels il faut trouver des lits. Et ce matin, la situation à la Pitié-Salpêtrière est sous contrôle, mais aussi un tout petit peu en tension encore. Et la partie est loin d'être gagnée. Hein. C'est le message qu'il faut faire passer.
Qu'il faut faire passer, oui.
Voilà.
Vous êtes choqués. Et vous, qu'on ait parlé de déconfinement, est-ce que vous avez le sentiment que c'est l'envisager le déconfinement a fait que les Français ont peut-être eu le sentiment qu'il y avait, ou quand on dit qu'effectivement on arrive à peu près à gérer, que finalement la partie était gagnée?
Il faut bien sûr parler de déconfinement, l'envisager, le préparer. On ne sait pas quand le déconfinement surviendra. Ça sera peut-être que dans un mois et demi. Personne, à la date d'aujourd'hui, ne peut dire quand le déconfinement se produira. Il est par contre extrêmement important de préparer cette étape-là, oui, de savoir comment on va la gérer, en particulier quelle sera la politique de port de masque, est-ce que le test sérologique de dépistage massif de population aura un intérêt, ce que moi je crois profondément. Oui. Donc il est extrêmement important de préparer tout ça, et les autorités sanitaires et gouvernementales ont bien sûr raison de préparer tout ça. Après, le message que nous, en tant que soignants, on continue de faire passer à nos concitoyens, c'est de pour l'instant, rester confiné chez soi, éviter de se rapprocher, et continuer avec ce qu'on appelle la distanciation sociale, pour nous, est extrêmement important, et il ne faut pas qu'il y ait de relâchement sur tout ça pendant les semaines qui viennent. Et puis,
Le confinement est efficace. Le confinement est efficace.
Il a prouvé son efficacité dans de nombreux pays. Il a prouvé son efficacité en Chine, en Italie, qui sont en avance à peu près de 3 semaines, 1 mois sur la France, et sur la France maintenant aussi, puisque le pic tant craint, en fait, n'a pas eu lieu, et on a une grosse vague énorme, mais plutôt avec un phénomène de plateau qui est le reflet, en fait, des mesures de confinement et de l'efficacité de ces mesures de confinement, mais qui peuvent probablement être optimisées encore.
Qu'est-ce qui vous étonne dans cette maladie? Est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent, vous qui êtes médecin réanimateur?
C'est une maladie extrêmement grave pour les malades que nous on voit donc dans nos services. On a l'habitude de prendre en charge des malades très graves, mais la pneumonie et les atteintes des différents organes que l'on voit dans cette maladie sont extrêmement impressionnantes. C'est quelque chose qui nous a surpris. La deuxième chose, c'est que dans nos services de réanimation, on a des patients relativement jeunes, c'est-à-dire entre 40 et 60 ans.
Et comment est-ce que vous l'expliquez ? Est-ce que vous avez une explication à cela ?
La maladie probablement touche un petit pourcentage de la population, bien heureusement, les patients qui malheureusement arrivent en réanimation, eux, vont présenter des formes extrêmement graves. C'est pour cela qu'il faut faire passer le message, et vous les médias en premier, oui. De poursuivre... Oui. Toutes ces mesures, on a peut-être gagné une première bataille, mais l'ennemi est extrêmement malin, puissant, la partie ne sera pas gagnée sur une première bataille. La bataille va être longue avant de pouvoir épuiser le réservoir de virus.
Est-ce que les patients n'arrivent pas trop tard parfois à l'hôpital ? Quels conseils est-ce que vous pouvez donner ? Moi, je vois autour de moi, j'ai des gens qui ont de la fièvre, qui ont parfois du mal à respirer, et le 15 leur dit « Non, restez chez vous ». Or, hier, je parle de façon assez personnelle, un ami est allé quand même consulter un médecin qui lui a dit « J'entends un souffle, quelque chose ». Il est allé passer un scanner et on l'a gardé à l'hôpital. Est-ce que les patients n'arrivent pas trop tard quand ils sont dans des états graves ?
Alors après sur des histoires individuelles comme ça, c'est très très difficile de se prononcer sur une histoire particulière. Le message est bien sûr de consulter en premier d'abord son médecin généraliste, puisque c'est le référent santé pour toute la population en France. Et si l'état apparaît très préoccupant, eh bien il faut soit se rendre dans un service d'urgence, soit appeler le SAMU. Le SAMU est extrêmement bien organisé en France, heureusement, bien sûr.
Oui, sur la réanimation, on a pu entendre hier des médecins dire, enfin pas sur la réanimation, sur l'après justement quand on a été en service de réanimation, ce sont des séquelles assez lourdes aussi. C'est ce qu'il faut que les gens comprennent.
Oui, ben ça c'est quelque chose que l'on connaît très bien. En réanimation depuis de nombreuses années maintenant, on sort pas indemne d'un séjour de même 2-3 semaines en réanimation. Il y a une phase de réadaptation après qui peut prendre 3-4 semaines, parfois beaucoup plus. Et souvent, il faut jusqu'à 6 mois, parfois 1 an, pour récupérer donc un état physique et psychique proche de la normale.
D'accord. Le message, donc, aujourd'hui, vous qui voyez ces malades très graves, je rappelle que vous êtes responsable de service de réanimation, vous dites aux gens, la partie n'est pas gagnée, il faut rester chez vous.
La partie n'est pas gagnée. J'enjoins tous les médias de relayer ça. Il est relayé, bien sûr, par toutes les autorités sanitaires en France, moi, je me rends de mon domicile à mon travail tous les jours, et malheureusement, il y a encore trop de monde sur tous les jours où il fait un petit peu beau dans Paris. Je pense que c'est un petit peu la même chose dans d'autres villes de France. C'est un message qu'il faut faire passer. Il faut vraiment éviter au maximum les contacts sociaux. Malheureusement, c'est très triste, mais pour gagner la partie, on aura besoin de cet effort coordonné par toute la population.
Et on apprenait ce matin que la mairie de Paris envisageait d'interdire les joggings entre 9h et 19h, en tout cas à Paris. Donc certainement pour limiter justement ces sorties. Donc c'est plutôt une bonne chose.
Ça, moi, je laisse la responsabilité aux politiques.
De ça. En tout cas, on a entendu votre message. Merci beaucoup, professeur Alain Combes, donc chef du service réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc, vous nous avez dit des patients relativement jeunes, entre 40 et 60 ans également. Personne n'est épargné et qu'il faut rester confiné, respecter les règles, les gestes barrières, les masques si vous êtes infecté. Merci infiniment d'être intervenu sur Sud Radio. Dans un instant, merci à vous. Dans un instant, on va parler de nos animaux avec le président de la SPA. Dans un instant, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi et je suis en ligne avec Jacques-Charles Fonbonne. Bonjour. président de la SPA, bonjour, merci d'être avec nous. On voulait faire un point avec vous ce matin, justement, sur la situation dans les refuges, ce qui se passe, et puis d'alerter aussi les gens, ça on l'a déjà fait, sur le fait qu'il ne fallait pas désinfecter ces animaux avec des gels hydroalcooliques, ni les laver avec des détergents. Hein. Je pense que c'est aussi un message qu'on peut faire passer. Quel message vous vouliez nous faire passer ce matin? Quelle est la situation dans les fourrières et dans les refuges?
Alors, j'ai deux messages. Le premier est relativement positif. Nous avons craint il y a 3 semaines les abandons en masse. Certains irresponsables ayant trouvé très drôle de diffuser sur Internet le fait que l'animal pouvait transporter le virus. On a vraiment eu peur d'un grand nombre d'abandons. Les gens ont réagi intelligemment et ça ne s'est pas fait. On a un nombre qui est constant par rapport à ce qu'on connaît les autres années. Alors, l'état des refuges. L'SPA fonctionne en quelque sorte comme un fluide. C'est-à-dire que nous recueillons des animaux abandonnés, des animaux perdus qui sont capturés par les fourrières nous les remettent et ensuite on les propose à l'adoption et on les remet à des particuliers. Pour fixer les idées, c'est 3500 animaux par mois, donc c'est un volume considérable. Et là, on se trouve dans cette situation d'un réservoir qui se remplit et qui ne peut pas se vider. C'est-à-dire que nous continuons évidemment à recueillir les animaux perdus, les animaux abandonnés, mais comme les gens sont confinés chez eux, on a zéro adoption. On n'a aucun moyen de donner des animaux à l'adoption. On reçoit des centaines de demandes tous les jours. On ne peut pas y répondre. Ce qui fait que... On est à 4300 animaux au début du confinement. On est maintenant à 5600 et il me reste un gros millier de places disponibles. Lorsque j'aurai plus de places disponibles, ça veut dire qu'on ne pourra plus prendre les animaux en sortie de fourrière. Et ça, c'est le règlement du code des collectivités territoriales. C'est-à-dire que les fourrières vont les euthanasier par centaines, par milliers, si le confinement continue.
Qu'est-ce que vous avez lancé un appel au président de la République? Quelle solution peut être trouvée?
Alors, nous avons depuis une douzaine de jours sollicité le ministère de l'Agriculture, qui est notre ministère de tutelle, en disant, écoutez, les Belges le font, la Wallonie a sorti une directive indiquant que l'on pouvait, dans les refuges belges, aller adopter des animaux. On demande la même chose. Le ministère nous a donné une réponse d'attente qui était, ça va être une décision interministérielle, c'est très compliqué. Nous avons pris contact directement avec les préfets. Dans les départements où nous avons des refuges, les préfets nous ont dit, et c'est normal, nous n'avons pas de directive de Paris, donc nous ne pouvons pas vous accorder cette dérogation. On est vraiment très embêtés. C'est un appel à l'aide. Ouais, c'est un appel au bon sens. Alors d'autant plus qu'il y a une directive du 1er avril de la direction de l'alimentation qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui autorise les bénévoles à venir dans les refuges, qui autorise les salariés à venir dans les refuges, qui autorise les gens à aller nourrir les chats, et c'est bien sur la voie publique. Ouais. Et il n'y a rien sur les refuges. Moi, j'ai des milliers d'animaux. J'ai 600 salariés qui tiennent les refuges parce que nos animaux sont vivants. Donc, même si nos refuges sont fermés au public, j'ai des gens et j'ai des centaines de personnes qui me demandent à adopter. Alors, on a proposé, parce qu'on sait, on s'est pas présenté au ministère les mains vides. Oui. On a proposé un dispositif d'adoption, pour faire simple, qui va se faire quasiment sur Internet. Toutes les mesures préalables se feront sur Internet. Le choix de l'animal, la communication du numéro de téléphone et du refuge dans lequel va se trouver l'animal. On va vous donner une heure de rendez-vous, de façon à ce que vous soyez seul dans le refuge. On ne visite pas le refuge. Et puis, lorsque vous arrivez, on vous donne l'animal, vous avez une présentation avec l'animal, seul avec l'animal pendant les minutes que vous jugez nécessaires. Si le fit se passe et si vous avez toujours envie de l'adopter, vous partez avec l'animal, on vous a demandé une photocopie de votre carte d'identité, une photo personnelle pour être sûr que c'est vous qui vous présentez, et vous repartez avec l'animal.
Donc il y a toutes les garanties, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, protection
sanitaire. Il n'y a aucun contact entre les humains, absolument. Il y a beaucoup moins de risques que si vous allez acheter un pack d'eau ou si vous faites prêter un téléphone par quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi je veux bien, en outre, parce que je veux dire président de la plus grande association de protection animale, de la plus ancienne, de la plus structurée, je suis en très général de gendarmerie, donc je ne veux pas me mettre en délicatesse avec le règlement. Je ouais. veux même bien que l'on puisse délivrer une attestation par Internet quand la personne a ouais. un rendez-vous en disant voilà, le rendez-vous ouais. à 16h au refuge de plaisir, par exemple. Elle va être sur la route entre son domicile et cet endroit. La même ouais. chose pour le retour. Je veux bien réduire les horaires d'adoption de façon à ce que les gens de l'administration, du ministère de l'Agriculture puissent venir assister aux opérations, puissent venir inspecter, je dirais, de façon inopinée. Mais c'est un appel au bon sens. On a vraiment ouais. besoin que le gouvernement nous aide. Alors on nous dit, oui, effectivement, compte tenu des problèmes, des centaines de morts que l'on a, ouais. c'est une préoccupation ouais. qui est secondaire, ce que j'entends évidemment bien. Mais il n'y a pas de concurrence, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe
pas
des animaux.
Oui.
On ne prive pas les humains de soins et d'organisations dont ils ont besoin.
On voilà. peut tirer un coup de chapeau à vos salariés également, à tous oui. ces bénévoles également qui sont là. Oui, vous l'avez dit, les animaux sont des êtres humains, ils sont là, ils vont nourrir, s'occuper des animaux, j'imagine, avec là
oui,
aussi
oui,
des précautions.
Alors, on a pris des précautions, on a pris une organisation très militaire, c'est-à-dire que nous avons divisé nos équipes en deux. Une équipe fait le lundi et le mardi, par exemple, la seconde équipe le mercredi et le jeudi, puis ils tournent. Ils prennent pas les mêmes locaux, pas le même matériel, pas les mêmes sacs de croquettes, aucune circulation de personnes entre les deux groupes, de façon à ce que ce cloisonnement nous permette que tout le monde ne soit pas malade en même temps. J'ai un refuge en Bretagne, que l'on a été obligé de fermer, mais jusqu'à présent tout se passe bien. Les équipes de transfert déplacent les animaux depuis les refuges saturés vers ceux qui ont ouais. encore un petit peu de place. Mais on a encore 15 jours d'autonomie, à peu près.
Donc il faut que vous soyez entendu de façon urgente,
appelez-en
à Brigitte Macron. Visiblement, elle a un chien qu'elle aime beaucoup, donc peut-être qu'elle sera sensible
qui vient,
à votre...
Et puis qui vient de chez nous.
Qui vient de chez vous, absolument.
Mais oui,
Moi, je serai vous, je lui enverrai un petit mot pour l'alerter sur cette situation, et on espère que le ministre de l'Agriculture vous entendra. Donc on rappelle qu'il y a 5000 animaux dans vos refuges, que vous avez beaucoup de demandes que vous ne pouvez pas honorer. Il y a beaucoup de questions autour de la transmission. Il n'y a pas eu de cas établi de transmission d'animaux contaminés, de chats ou de chiens qui transmettaient à l'homme. Il y a eu ce cas en Belgique, mais pas de mort. Et puis ce tigre, mais il n'y a visiblement pas de confirmation en tout cas.
On ne sait pas dans quelles circonstances ont été faits les prélèvements. C'est comme une scène de crime, si on trouve de l'ADN, il faut savoir comment il y est arrivé, comment on l'a prélevé. Ce dont on est certain, c'est que les animaux dans de mauvaises conditions d'hygiène peuvent porter le virus comme un téléphone portable, comme je le disais tout à l'heure, ou comme un pack d'eau qu'on va acheter au supermarché. Nos animaux dans le cadre, je ne vous l'ai pas dit, mais nos animaux dans le cadre de ce que nous proposons pour cette adoption, ils seront mis à l'isolement et ils seront shampoonés, toilettés avant qu'on les remette évidemment à un particulier. Moi, je ne veux pas prendre le risque d'une mise en danger de la santé ou de la vie d'autrui. Bien sûr.
Juste une dernière question. Est-ce qu'il faut confiner ces animaux? C'est-à-dire quand on habite dans une maison, dans une grande ville, est-ce qu'il faut empêcher le chat de sortir ou faire attention aux chiens?
Alors, pas du tout. D'ailleurs, la sortie de l'animal est prévue sur l'attestation de sortie dérogatoire. Je pense que s'il y avait eu le moindre risque, jamais le ministre de l'Intérieur n'aurait autorisé les sorties. Au contraire, il nous aurait dit, vous mettez vos animaux dans une pièce où ils sont seuls, pas d'enfants, pas de personnes âgées, pas de personnes immunodépressives.
Ouais. Donc, il n'y a pas de danger, on le répète.
Non, il n'y a pas de danger. Le seul danger, c'est si quelqu'un qui est très infesté par la maladie caresse votre chien, mais de façon vraiment insistante.
Pendant très longtemps, dessus, le virus peut rester, mais pas de danger de transmission. On arrive au bout du temps, mais on refera un point avec vous. On vous abandonne pas, nous, Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA. Merci d'être intervenu. Juste, Corinne, il n'y a pas eu d'abandon massif, c'est ce que nous a dit le président de la SPA, comme on pouvait le craindre. Les gens sont quand même un peu responsables avec leurs animaux. Pas de risque de transmission. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite.